nous allons maintenant donc entamer cette séquence sur les interactions concrètes entre humains et animaux. Et je vais laisser la parole à Étienne Babenet, qui est professeur de philosophie contemporaine et qui va donc présenter le sujet, nos invités et animer ce débat. À vous, Étienne.
Merci, Isabelle. Merci Isabelle pour votre et Isabelle et Jérémy pour votre accueil ici à Beaubourg. Merci à tous d'être là. Donc une table ronde consacrée aux interactions concrètes. Et je voudrais juste insister un peu sur cette idée des interactions concrètes entre hommes et animaux, c'est-à-dire qu'on va d'une certaine manière quitter la région philosophique des concepts, une réflexion assez générale sur l'homme et l'animal pour des quoique la seconde conférence était déjà plus centrée sur le juridique, mais on a tout de même des chercheurs qui travaillent chacun dans un domaine très spécifique. Éric Baratet est historien, Dominique Guyot est sociologue et historien des sciences, et Frédéric Keck est philosophe et spécialiste d'ethnologie et de biopolitique. Je les présenterai un peu plus précisément tout à l'heure, mais ce qui me semble intéressant, c'est que travaille sur cette frontière homme-animal de manière extrêmement précise, sur des interactions précises. Et quittant la région d'une réflexion générale, on s'aperçoit qu'au fond, la grande question, sommes-nous des animaux ou sommes-nous différents, au fond, perd un peu de sa valeur et de sa force, parce qu'au fond, tel que je vois leurs travaux, oui, cette frontière, elle est là, oui, cette différence est là, mais ce qui est intéressant et important, c'est de cultiver la limite, comme dit Derrida, hein, dans ce très beau mot de limitrophie, quand il dit, voilà, il ne s'agit pas d'abolir la frontière, il s'agit simplement d'adoucir cette frontière, de l'apaiser, de la cultiver et de faire que les interactions d'un côté à l'autre soient les plus précises possibles, de brouiller en quelque sorte cette frontière plutôt que de l'abolir. Et vous allez voir que c'est un peu de cette manière que s'entendent les trois travaux en question, les trois types de travaux et les trois interventions auxquelles on va assister. Alors vous allez voir que Frédéric Keck, que je présente, alors qui va commencer... est directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, après avoir été chercheur au CNRS. Il est philosophe de formation, hein. Il a travaillé sur l'ethnologie de Lucien Lévy-Brulle, mais par ailleurs, et sur d'autres grands philosophes, hein, je passe sur Bergson en particulier, hein, il a réalisé des éditions scientifiques de Bergson importantes, mais il s'est intéressé à partir des années... Enfin, il est revenu un moment sur la grande crise, enfin, ou les grandes crises de grippe aviaire et les grandes pandémies animales, avec des différentes enquêtes, notamment à Hong Kong, hein, qui était un peu l'épicentre, hein, des réactions aux grippes aviaires, et avec des enquêtes sur le terrain assez minutieuses et précises, des voyages pour pister un peu ces, non pas les pandémies directement, mais les réactions. Hein, des experts, des chercheurs, des populations à ces grandes pandémies. Et de ce tour du monde, en quelque sorte, de la grippe, en quelque sorte, il en est revenu avec un ouvrage qui s'appelle « Un monde grippé », hein, qui est paru en 2010 chez Flammarion. Et donc, il va nous proposer aujourd'hui une réflexion sur la Lévi-Strauss, me semble-t-il, hein, dont tu as... C'est un nouveau titre. D'accord. Mondialisation et pandémie animale, de la vache folle à la grippe aviaire. Je précise simplement pour terminer que Frédéric Keck est aussi un spécialiste important de Lévi-Strauss, parce que vous allez voir qu'il va être question aussi de Lévi-Strauss. Merci. Merci à toi.
Merci Étienne. Alors pour faire la transition avec le panel précédent, je dirais que je ne considère pas tellement les animaux dans l'alternative entre des sujets de droit. Je vais me déplacer, disons, du droit à des approches concrètes, et donc je ne vais pas considérer l'opposition qui est centrale en droit entre le sujet sensible et le bien meuble, mais je vais plutôt considérer les animaux comme porteurs de signes, signes de maladie, et en considérant ainsi les animaux comme porteurs de signes, je vais voir comment ils sont entrés dans la communauté humaine, en quelque sorte, malgré nous. Donc non pas la question de savoir comment on va les faire entrer dans une communauté de droit, mais comment ils sont entrés presque par effraction à travers des crises sanitaires où leur maladie annonce nos maladies. Et pour ça, donc, je me réfère à un cadre politique qui est celui de la solidarité. Je pose la question de savoir quelle solidarité nous pouvons avoir avec des animaux en tant qu'ils sont malades et que leur maladie annonce nos propres maladies, et qu'ils sont malades bien souvent des maladies que nous leur imposons et que nous partageons avec eux. Et donc, mon cadre est celui des sciences sociales, puisque je pense qu'un peu comme au XIXe siècle, il a fallu tout un travail des sciences sociales pour former le cadre de la solidarité qui a ensuite donné la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale. Mais de même, je pense que suite à ces grandes crises sanitaires, il y a tout un travail des sciences sociales pour penser à nouveau ce qu'est un monde sûr, ce que sont ces nouvelles pratiques de sécurité et ces nouveaux principes de précaution, si l'on veut, qui à la fois nous séparent et nous rapprochent des animaux. Alors, cette réflexion, elle a commencé pour moi il y a une dizaine d'années, mais disons que, en fait, inconsciemment, elle a commencé il y a une vingtaine d'années avec les grandes crises qu'ont été la crise de la vache folle en Europe et la crise de la grippe aviaire qui commençait en Asie, à peu près en même temps, 96-97. Et ces deux crises sont apparues dans les médias à travers des images très troublantes de massacres massifs d'animaux soupçonnés d'être porteurs de maladies transmissibles aux humains. Alors, je laisse de côté toutes les analogies qu'on a pu faire avec la Shoah, parce que c'est un débat sur lequel je ne suis pas du tout compétent. Là, c'est question de savoir si la Shoah est un événement unique ou si on peut décrire d'autres catastrophes sur le modèle de la Shoah. En tant qu'anthropologue, un des concepts qu'on a pu utiliser pour décrire ces images extrêmement troublantes, c'est celui de sacrifice. Est-ce qu'on peut dire que quand on a abattu des millions de vaches en Europe après 96 et des millions de volailles en Asie dans la même période, est-ce qu'on peut dire que c'était un sacrifice? Alors, plusieurs raisons permettraient de dire ça. D'abord, d'un raisonnement purement biologique. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que le nombre d'animaux élevés à des fins de consommation de viande a dramatiquement augmenté. Par exemple, le nombre de volailles en Chine est passé de 150 millions en 1968 à 15 milliards aujourd'hui. En Chine, dans la période maoïste, si vous voulez, il y avait un poulet au milieu du village, et puis avec la période de modernisation, on s'est mis à manger de la viande tous les jours. Cette augmentation massive de l'élevage industriel a offert un laboratoire, en quelque sorte, pour la mutation des pathogènes, comme par exemple la grippe. Et les transformations dans l'élevage industriel ont aussi permis à des maladies qui jusque-là étaient assez bénignes de se répandre, comme par exemple le fait qu'on a baissé la température de réchauffement des farines animales qu'on donnait depuis le début du XXe siècle aux bovins en Europe. Et donc une maladie qu'on connaissait depuis le XVIIIe siècle chez les moutons est passée aux bovins dans les années 90 en Angleterre. Donc le prion en encéphalopathie causant l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains. On a donc eu pour la vache folle à peu près une centaine de cas humains, mais on en redoutait à peu près, je crois, 800 000, c'était ce qui était prévu dans les scénarios catastrophiques. Pour la grippe aviaire, on a eu à peu près 500 morts pour 800 personnes infectées. Vous voyez que le taux quand même de létalité est assez important. Mais on a tué, pour contrôler ces épidémies, on a tué des dizaines de millions de bovins et on a tué des dizaines de milliards de poulets. Alors je sais, ces chiffres sont très effrayants. Donc, une des façons de rationaliser ça, c'est de dire que c'est un sacrifice, au sens où si on veut continuer à faire de l'élevage industriel massif de bovins et de volailles pour que tout le monde mange de la viande, eh bien, il faut consentir de temps en temps à tuer, à sacrifier un certain nombre de bovins pour pouvoir faire la part entre les animaux consommables et les animaux impropres à la consommation. Alors, je dis village global parce que tout ça va avec l'idée que c'est la globalisation des marchandises, des personnes. Les animaux circulent de plus en plus vite comme les personnes qui prennent l'avion. Et donc, une maladie qui se transmet des animaux aux humains se transmet très rapidement à toute la planète. Donc, ça révèle une sorte de vulnérabilité de la planète en tant que telle. Alors, le problème, quand on prend un concept comme ça, un peu lourd anthropologiquement, c'est que ça s'applique assez mal. D'abord, le sacrifice, dans la plupart des sociétés où ça s'exerce, sociétés grecques, les sociétés du Maghreb, d'abord, c'est tout le groupe social qui se réunit pour tuer un animal et pour le manger. Donc là, c'est, au contraire, on tue des animaux pour ne pas les manger. En plus, dans le sacrifice dit pastoral, on demande le consentement à l'animal pour être tué et pour manger. Et puis ensuite, le sacrifice, alors ça c'est du René Girard si on veut, le sacrifice est toujours une façon de résoudre un problème antérieur. Il y a un problème dans la société, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des substances qui sont mal mélangées, et donc on évacue la violence en la déchargeant sur un animal. Ce raisonnement marche assez bien, puisque les abattages de bovins, de vaches folles et de poulets grippés ont suivi toute la controverse sur la transmission du sida par les singes d'Afrique, puis par les homosexuels, les toxicomanes. Et donc on ne pouvait pas abattre, bien sûr, les singes d'Afrique, les toxicomanes, les homosexuels, mais c'était plus facile d'abattre les bovins et les poulets. Alors vous voyez quand même que c'est toujours un peu troublant, ce genre de rationalité un peu massive et globale. C'est en quelque sorte aussi violent conceptuellement que le phénomène qu'on a à décrire. Alors pour ça, pour essayer de me départir de ce concept de sacrifice qui est extrêmement tentant, je vais prendre un auteur justement qui n'a jamais utilisé le concept de sacrifice en anthropologie, qui est Claude Lévi-Strauss. Et donc je vais laisser la parole à Jade, qui va vous lire ce texte que Claude Lévi-Strauss a écrit en 1997 dans La Repubblica, qui est un journal italien, sur les vaches folles.
Il y a environ 3 ans, à propos de l'épidémie dite de la vache folle, qui n'était pas d'actualité autant qu'elle l'est devenue aujourd'hui, j'expliquais au lecteur de La Repubblica les pathologies voisines dont l'homme était parfois victime. Kourou en Nouvelle-Guinée, nouveau cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en Europe, résultant de l'administration d'extraits de cerveau humain pour soigner des troubles de croissance. Que ces pathologies, donc, étaient liées à des pratiques relevant au sens propre du cannibalisme, dont il fallait élargir la notion pour pouvoir toutes les y inclure. Et voici qu'on nous apprend à présent que la maladie de la même famille qui atteint les vaches dans plusieurs pays européens et qui offre un risque mortel pour le consommateur s'est transmise par les farines d'origine bovine dont on nourrissait les bestiaux. Elle a donc résulté de la transformation des vaches par l'homme en cannibales, sur un modèle qui n'est d'ailleurs pas sans précédent dans l'histoire. Des textes de l'époque affirment que pendant les guerres de religion qui ensanglantèrent la France au XVIe siècle, les Parisiens, affamés, furent réduits à se nourrir d'un pain à base de farine faite d'ossements humains qu'on extrayait des catacombes pour les moudre. Le lien entre l'alimentation carnée et un cannibalisme élargi jusqu'à lui donner une connotation universelle a donc dans la pensée des racines très profondes. Ce lien ressort au premier plan avec l'épidémie des vaches folles, puisque à la crainte de contracter une maladie mortelle s'ajoute l'horreur que nous inspire traditionnellement le cannibalisme étendu maintenant aux bovins. Conditionnés dès la petite enfance, nous restons certes des carnivores, et nous nous rabattons sur des viandes de substitution. Il n'en reste pas moins que la consommation de viande a baissé de façon spectaculaire. Mais combien sommes-nous, bien avant ces événements, qui ne pouvions passer devant l'étal d'un boucher sans éprouver du malaise, le voyant par anticipation dans l'optique de futurs siècles? Car un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines. Cette idée inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle. Les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains.
Merci. Bon, donc c'est un texte que vous pouvez retrouver sur Internet, puisque après être paru initialement en italien, il a été traduit en français dans la revue Études Rurales et il a été récemment réédité dans un... Donc toutes les chroniques en fait, italiennes de Lévi-Strauss ont été traduites et éditées dans ce volume intitulé « Nous sommes tous des cannibales ». Donc Lévi-Strauss réfléchit en 1997 à ce que ça signifie de dire que les vaches sont devenues cannibales. Donc c'est pas seulement métaphorique, c'est pas seulement dire qu'on les a dénaturées, on en a fait des monstres, c'est vraiment littéral, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a donné à manger aux vaches depuis le début du XXe siècle des farines constituées de recyclage de protéines animales que le prion, qui a toujours été là en quelque sorte, a commencé à se diffuser à plus large dose et est donc passé de bovin à bovin, puis de bovin à humain. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire donc de, pour le coup un peu plus métaphoriquement, que les vaches sont des cannibales? Alors, Lévi-Strauss ici joue sur en quelque sorte deux plans. Il y a d'abord l'effroi et le scandale moral que ça suscite, de dire effectivement c'est horrible de manger de la viande et ça va nous rendre malades. Mais il prend le point de vue inverse, qui est de dire mais et si toute consommation de viande était cannibale? Et ça, c'est le point de vue des Amazoniens, des indigènes d'Amazonie, avec lesquels Lévi-Strauss a travaillé dans son terrain pendant les années 30, et dont il garde le souvenir des premières rencontres de Montaigne, qui fait ce fameux texte sur les cannibales, où Montaigne dit que c'est finalement beaucoup plus violent de traiter les humains comme nous le faisons en les mettant dans des prisons que de manger ses ennemis, comme le font les Tupi-Kawai. Donc Lévi-Strauss essaye de prendre le point de vue des indigènes d'Amazonie sur le cannibalisme en disant « Et si toute consommation de viande était cannibale ?» Alors, à ce moment-là, il fait un saut encore plus étonnant, c'est qu'il dit, plutôt que de dire « Bon, alors, pour sortir de la crise de la vache folle, il faut qu'on devienne tous végétariens et qu'on arrête de manger de la viande. » Il dit « Pour sortir de la crise de la vache folle, il faut que nous rendions un certain nombre de vaches cannibales systématiquement. » Et là, il se réfère à Auguste Comte, fondateur du positivisme, qui, à la fin de sa vie, construisait des espèces d'utopies qui lui permettaient de régler toute l'humanité avec des espèces de hiérarchies ou qui allait être oublié, qui allait être promu, etc. Et Auguste Comte prévoyait que certains animaux seraient des compagnons de l'humanité et que pour cela, il faudrait leur donner la même alimentation que les humains. Donc non seulement des chiens, mais aussi des bovins qui donc deviendraient cannibales. Et Lévi-Strauss, alors c'est les passages que je vous ai mis, donc je vous ai sélectionné dans la fin du texte ceux qui m'intéressent pour la fin de mon propos. Donc Lévi-Strauss propose à la suite d'Auguste Comte rendre donc un certain nombre d'animaux carnivores, hein, et il dit on pourra ainsi leur confier la principale surveillance des sources d'énergie et des machines, rendant ainsi les hommes disponibles pour d'autres tâches. Donc ça veut dire que les animaux vont devenir des alliés des humains pour gérer, en quelque sorte, le système industriel. Alors, ensuite, Lévi-Strauss dit ce truc très bizarre, qui est de dire que, du coup, on pourra continuer à manger de la viande, mais on mangera les animaux comme s'ils étaient des hommes, puisqu'ils sont nos alliés pour gérer le système industriel. D'accord ? Donc, on mangera les animaux avec le même respect que les Indiens d'Amazonie avaient quand ils mangeaient leurs ennemis. Ou leurs alliés, d'ailleurs, parce que tout le problème de cannibalisme, c'est de transformer des ennemis en alliés. Et ensuite, il dit, alors là, ça devient vraiment bizarre, ce ne sera plus vraiment de la domestication. On ne pourra plus dire que ce sont des animaux domestiques. Ce sera comme si on les chassait. Ce sera comme si c'était des animaux sauvages, donc on va les remettre à l'état sauvage, mais ils vont quand même nous aider à gérer le système industriel. Ce sera comme si on les chassait, et du coup, on les mangera comme du gibier. Mais de même qu'en Amazonie, on chasse des ennemis, on chasse des animaux, et avant de les tuer, on leur demande « Toi, mon ennemi, deviens mon allié. » Et puis ensuite, il dit « Finalement, la mondialisation n'est pas du tout une standardisation, c'est pas du tout transformer les animaux en marchandises, ça permet de multiplier les statuts, donc vous voyez, c'est le dernier paragraphe, ça permet de multiplier les statuts puisqu'on aura des animaux alliés, des animaux chassés,
donc des animaux amis, des animaux ennemis, et puis on aura des tas de rituels pour transformer les animaux d'ennemis en amis. Et puis, du coup, on pourra manger les animaux tout en considérant que c'est des humains. C'est quand même très bizarre, mais tout ça vient de la philosophie des Indiens d'Amazonie. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, je voudrais juste vous dire en quoi ce qui semble parfaitement délirant, et Lévi-Strauss sait très bien au moment où il se réclame d'Auguste Comte que Auguste Comte était à la fois le fondateur du positivisme et un grand fou. La fin du positivisme, c'est le moment où Auguste Comte justement va chercher la sagesse des sociétés d'Afrique et d'Amérique pour renouveler une société européenne qui considère complètement en crise. Je vais vous dire en quoi cette prophétie d'Auguste Comte, enfin j'aime pas tellement le terme prophétie, cette utopie d'Auguste Comte est parfaitement fondée scientifiquement, avec 2 exemples, l'un pour la vache folle, l'autre pour la grippe aviaire. Ça explique parfaitement ce qui s'est passé, beaucoup mieux que le concept de sacrifice. Alors, voici quelqu'un avec lequel Lévi-Strauss a travaillé depuis les années 60, puisque Lévi-Strauss était à l'UNESCO. Lévi-Strauss est un expert anthropologue, si vous voulez. Et donc, en tant qu'expert, il a travaillé avec des experts microbiologistes. Et dans les années 60, il y avait ce phénomène très bizarre, donc le courroux dont il parle, qui était une maladie qui se transmettait de génération en génération en Nouvelle-Guinée. Et c'était les femmes qui étaient atteintes de folie, de transe. Hein. Et on a d'abord cru que ces phénomènes étaient dus à l'arrivée des Européens qui rendaient les femmes folles. Alors, ce Gajdusek, qui était donc microbiologiste américain, passé par l'école d'Australie, par l'école australienne de microbiologistes, observe que les femmes mangent les cerveaux de leurs grands-parents, si vous voulez, enfin des personnes âgées qui, lorsqu'elles décèdent. Donc c'est ce qu'on appelle de l'endocannibalisme. C'est pas comme en Amazonie où on mange les ennemis. Là, on mange les grands-pères et les grands-mères, et on laisse la viande, enfin les muscles, aux hommes, et les femmes mangent la cervelle. Bon, donc du coup, les femmes se transmettent cette maladie, et Gajdusek va faire des prélèvements, et les enfants aussi. Donc il va faire des prélèvements sur les femmes et les enfants, et il va ensuite transmettre ces morceaux de cervelle. Au singe, et il va se rendre compte que cette maladie se transmet entre primates, et que donc il va faire l'hypothèse qu'il y a un virus. Il ne va jamais trouver le virus, c'est dans les années 80 qu'on va trouver le prion, qui est une protéine. Mais ce qu'a fait Gajdusek, c'est qu'il a fait le véritable ethnologue. Il s'est immergé dans la société des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à force d'immersion, il a réussi à obtenir des prélèvements sur de sang, mais aussi de cervelle, chez des sujets qu'il considérait vraiment comme des sujets et pas comme des objets. Hein. Il était, je passe même, il a même ramené certains chez lui dans sa maison. Il a été accusé de pédophilie à la fin de sa vie. Mais alors, Gajdusek se présentait lui-même comme un collecteur et chasseur d'échantillons biologiques. Alors, donc, il pratiquait lui-même la chasse sur des sociétés de chasseurs qui pratiquaient le cannibalisme. Je voudrais maintenant vous dire en quoi tout le dispositif sur la grippe aviaire a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Robert Webster, qui est un Néo-Zélandais, qui est passé lui aussi par l'école australienne de microbiologie, et qui a découvert que, dans les années 60-70, que les virus de grippe mutent dans ce qu'on appelle le réservoir animal des oiseaux. Donc vous avez des virus de grippe chez les oiseaux, ça ne les rend pas forcément malades, ça, ils n'en meurent pas forcément, mais il a commencé à collecter lui aussi des échantillons de virus chez les oiseaux, chez les cochons qui sont le véhicule intermédiaire, et chez les humains, et il a pu commencer à anticiper les prochaines pandémies de grippe. C'est ce qui explique qu'en 1997 à Hong Kong, lorsque le H5N1 est arrivé, qui est passé directement des oiseaux aux humains, on a lancé l'alerte, et on a commencé à tuer tous ces millions et milliards de volailles. Mais ce qu'ont fait depuis les experts chinois et ensuite les experts du monde entier, c'est faire un peu comme ce qu'avait fait Gajdusek pour la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire faire des prélèvements, les mettre dans des laboratoires, et ainsi agir un peu comme des chasseurs dans des sociétés pastorales qui, elles, sécurisent et sacrifient leurs animaux. Voilà, je voulais juste vous laisser sur cette proposition, on pourra la discuter peut-être.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Vous voyez comment ces maladies infectieuses émergentes, comme on dit, hein, qui viennent à l'homme par l'animal, viennent brouiller donc cette fameuse frontière homme-animal, puisque par ailleurs, il faut mobiliser des catégories ethnologiques ou issues des sciences humaines, comme celle de sacrifice, de cannibalisme, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je voudrais présenter quelqu'un qui va brouiller d'une autre manière, d'une manière très différente, cette fameuse frontière, dans sa méthode même. C'est-à-dire que c'est un historien, au fond, un historien des animaux, en quelque sorte, Éric Baratet, qui est à ma gauche, professeur d'histoire contemporaine à Lyon 3, spécialiste de l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. Alors d'abord du point de vue de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'homme se représente et s'est traditionnellement et historiquement représenté les animaux. Vous avez écrit un ouvrage sur l'Église et l'animal, par exemple, une histoire des zoos en Occident, par ailleurs. Et puis progressivement, si j'ai bien compris, vous progressez vers le point de vue animal proprement dit, c'est-à-dire une histoire des animaux par eux-mêmes en quelque sorte, hein, avec en particulier cet ouvrage qui a fait date, hein, « Le point de vue animal, une autre vision de l'histoire » en 2012. Et puis un ouvrage comme sur les bêtes des tranchées, par exemple, les chiens pendant la guerre, les chiens et les chevaux pendant la Première Guerre. Donc je vous donne la parole pour un exposé consacré donc à ce point de vue animal, je pense. Ou plus précisément, non, plus précisément, une histoire de girafe. Je lui laisse le...
Très bien. Donc, dans la foulée de ce que j'ai fait il y a les précédentes années, c'est-à-dire essayer de travailler sur une histoire des animaux vue vraiment du côté des animaux, et non pas une histoire des hommes parlant des animaux, je suis en train de travailler maintenant sur les individus. Elisabeth de Fontenay, tout à l'heure, vous a parlé de l'importance des individus. Et justement, l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté de certains individus animaux lorsqu'ils vivent des rencontres avec les hommes. D'où un travail qui va paraître en mars, de biographie animale, consacré donc à une dizaine d'animaux, en essayant de voir leur histoire vraiment de leur côté. Alors, pour prendre un exemple, voilà celui de la girafe. Girafe de 1826-1827, une girafe très célèbre, puisque c'est la première girafe venue vivante, hein, vivante en Europe, depuis au moins l'Empire romain. On n'a pas beaucoup de preuves, mais sans doute il n'y en a pas eu de vivante depuis l'Empire romain. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette girafe est offerte par le pacha d'Égypte au roi de France. Et le pacha offre aussi une girafe au roi d'Angleterre et une autre à l'empereur d'Autriche. Mais ces deux girafes meurent. Et la seule qui arrive vivante et qui reste longtemps vivante en Europe, c'est au moins dans un premier temps, ensuite d'autres girafes viennent, c'est celle de 1826. Alors cette girafe, elle attise les passions, évidemment. Vous en avez un exemple avec cette gravure de l'époque. On se représente le voyage de la girafe, puisqu'elle traverse la Méditerranée en bateau, hein, d'Alexandrie à Marseille, et on la voit là qui porte le mât, et enfin qui remplace le mât et qui porte les voiles. Alors elle attise littéralement les passions, parce que c'est un animal extraordinaire. C'est à peu près comme si on promenait de nos jours dans Paris un martien. Hein, tout le monde, évidemment, se précipiterait. C'est ce qui se passe à l'époque. Elle remonte de Marseille, elle remonte à pied le long de la vallée du Rhône, et on se précipite par village entier, curé et maire en tête, pour aller voir cette énergumène qui déclenche vraiment l'enthousiasme. Alors les dames de l'aristocratie se coiffent à la girafe, c'est-à-dire qu'elles ont un chignon qui vient en avant, hein, qui imite le cou de la girafe. On s'habille à la girafe, c'est-à-dire avec des couleurs qui imitent la robe. On danse à la girafe avec des valses. Il y a un opéra qui est écrit à la girafe. Il y a des pièces de théâtre satirique, etc., etc. Il y a énormément de vaisselle avec au fond des assiettes ou des tasses, des images de la girafe, etc. C'est un véritable engouement qui va durer en gros 2-3 ans, jusque vers 1830. Alors cet épisode, il est très connu jusqu'à nos jours, il a été beaucoup évoqué, notamment il y a eu des livres récents dans les 20 dernières années qui ont évoqué cet aspect, mais toujours du côté humain. Hein, toujours, qu'est-ce qui se passe du côté des hommes, cette espèce d'agitation intellectuelle, vestimentaire, etc. Mais on ne s'est jamais posé la question de ce qui se passait du côté de l'animal, du côté de la girafe. Et pourquoi se poser la question? C'est évidemment pour comprendre ce qui se passe de son côté, mais aussi pour comprendre ce qui se passe du côté des hommes. Parce qu'en fait, le succès est dû justement au caractère d'animal vivant. On ne vient pas voir, on ne se précipite pas pour voir un animal empaillé monter sur quatre roulettes. Ça n'aurait pas attiré grand monde. Des dépouilles de girafes, on en a depuis le XVIe siècle, ça ne déclenche pas les foules. Alors que là, c'est vraiment un animal vivant. Et donc, ce qui attire les gens, c'est bien cette vision d'un animal vivant, comment il se comporte, et c'est bien les interactions que l'on peut avoir avec ces humains, avec cet animal. Alors, on a des documents de l'époque, notamment des documents de naturalistes, qui permettent de voir à peu près ce qui s'est passé. Enfin, si on arrive à voir à peu près 30% ce qui s'est passé, c'est déjà pas mal, mais enfin, c'est mieux que rien. Et donc, on arrive à voir les interactions avec les hommes, et on arrive aussi à comprendre ce qui se passe du côté de la girafe grâce à ces documents, en les croisant avec l'éthologie actuelle portant sur les girafidés. On arrive à trouver des choses très intéressantes. Alors, voilà une des affiches très répandues à l'époque de cette girafe, puisqu'elle est débarquée à Marseille. Elle va rester à Marseille 6 mois. Elle est logée à l'hôtel de la préfecture et on la promène régulièrement. Alors, cette girafe, vous verrez, le lapsus n'est pas innocent, hein, parce que je vais vous parler de vache. Cette girafe subit évidemment un très important stress. On le devine très bien. Les gens de l'époque le voient plus ou moins, mais on le devine encore plus maintenant. Par exemple, elle ne prend jamais la nuit la position du sommeil profond, qui est une position très particulière où les girafes se couchent un peu comme des bœufs et puis lancent leur tête sur leur croupe. C'est-à-dire que la tête, pour dormir, repose sur la croupe. C'est une position tout à fait extraordinaire. Or, personne n'en parle, ce qui veut dire, si on l'avait vue, on en aurait parlé, ce qui veut dire qu'elle ne la prend pas. Et c'est le signe maintenant, en éthologie des girafidés, c'est le signe d'un très important stress. De même, elle dort que par petites intermittences, quelques minutes par-ci, par-là, tout le long de son voyage. Donc un stress très important qui varie évidemment avec les moments. Elle est très stressée lors de son entrée à Marseille. Elle ne veut pas rentrer par la porte et aller par les rues. Elle est très stressée lorsqu'elle rentre à Aix, parce qu'elle rentre dans le vieil Aix avec tous les gens massés aux étages qui la regardent passer et qui évidemment hurlent leur stupéfaction et elle prend ça dans les oreilles. Autre summum de stress, c'est à Lyon, où on la promène très souvent, notamment place Bellecour. Et il y a une foule absolument immense. Et le dernier jour, elle reste 3 jours à Lyon. Le dernier jour, elle a tellement peur qu'elle s'enfuit. Et tout le monde se met à courir après la girafe. Et elle a aussi un gros stress lorsqu'elle arrive au Jardin des Plantes, où là, les Parisiens se précipitent. Il y a plus de 800 000 personnes qui viennent se précipiter en 4-5 mois pour voir la girafe. Malgré ce stress très important, elle survit. Contrairement ou à l'inverse de ces deux congénères qui, elles, meurent très rapidement. Et là, on a le caractère très exceptionnel de cette girafe, à la fois parce qu'elle a été capturée assez jeune, autour des 6 mois, c'est-à-dire assez jeune pour pouvoir se passer de sa mère, mais en ayant encore besoin de substituts de mère. Et ces substituts de mère, elle va les prendre, non pas vraiment auprès des hommes, mais auprès de certains animaux dont je vous parlerai tout à l'heure. L'autre avantage pour elle, c'est que c'est une femelle. Et on sait maintenant que les femelles ont l'habitude de vivre en groupe et dans des groupes très instables, qui bougent sans arrêt, et des groupes qui vivent avec d'autres animaux. Autrement dit, cette femelle est habituée, ou du moins est prédisposée pour des changements incessants. Or, les changements incessants, elle va en connaître énormément. Alors que les mâles qui nomadisent à l'écart, eux sont beaucoup plus sujets au stress et beaucoup plus délicats lorsqu'on les change de situation. Et puis le troisième facteur, c'est qu'elle a un tempérament exceptionnel, et que les cornacs qui la capturent au Soudan voient bien et qu'ils transmettent comme ça de suiveur en suiveur, de conducteur en conducteur. Elle apparaît très calme, elle ne tente pas de fuir lors de sa capture. Elle est très souple, très accommodante, et donc elle prend l'habitude assez vite des conditions qu'on lui impose. Et puis, on pourrait dire, elle a un caractère optimiste. Elle a envie de jouer, elle a envie de s'amuser, de se dépenser. Même attachée, elle se met à cabrer, à sauter, alors que beaucoup d'autres congénères se laissent aller au stress, à la dépression. Et c'est sans doute ce qui est arrivé aux deux autres girafes envoyées. Et elle s'adapte peu à peu au voyage. Elle s'adapte à la vie à Marseille. Alors à Marseille, on la sort d'abord dans le jardin de la préfecture, bien tenue par des longes. Alors là, on vous montre qu'une longe, en fait, elle en avait 4-5 pour la tenir devant et derrière. Mais elle arrive petit à petit à s'adapter. Puis ensuite, on la promène dans les rues de Marseille. Puis ensuite, on la promène hors de Marseille pour qu'elle s'habitue un peu à marcher, puisqu'elle doit aller comme cela à Paris. Et elle apprend ainsi à diminuer son stress en public, notamment en attirant son attention notamment sur les feuillages qu'elle rencontre sur les places, sur les boulevards, dans les campagnes. Et elle se met comme ça à tâter un peu la végétation occidentale. Et avec des incompréhensions avec les hommes, parce que alors la première fois qu'on la sort de Marseille, les hommes l'emmènent dans un pré. Un pré, à l'époque, c'est extrêmement rare. N'importe quel bestiau européen se damnerait à l'époque pour avoir un pré. Elle n'en veut pas, parce que les femelles se baissent très rarement dans la nature pour manger l'herbe, parce que c'est une position très dangereuse vis-à-vis des prédateurs qui attaquent au cou lorsque les girafes ont la tête baissée. Et donc, elle préfère les arbres. On lui donne aussi des fruits africains. On se dit, elle est africaine, elle doit aimer les fruits africains. Et ça ne marche pas, elle n'aime pas. On lui donne des arbres, des feuilles de chêne. Le chêne, c'est un arbre noble en Europe. Ça ne marche pas non plus. Et en fait, elle se rabat sur l'acacia, qui peut être très déprécié en Europe à l'époque, et puis sur l'if et le thuya, qui au contraire, alors encore plus déprécié, puisqu'on le trouve amer, on les trouve amers, on les trouve très âpres. Et donc, il y a des incompréhensions comme ça qui se mettent en place entre la population et puis cette girafe. Mais petit à petit, donc, elle tolère l'alimentation. Alors, elle s'alimente surtout avec du lait, je vous en parlerai après, mais elle va se mettre aussi à tolérer l'alimentation qu'on lui propose, et notamment le foin. Au début, elle ne veut absolument pas de foin, et puis à force de voir ses vaches manger du foin, elle va se mettre à manger du foin au bout de 3-4 mois. Et elle va aussi s'habituer à manger par terre, parce que pour les hommes de l'époque, manger par terre, c'est normal. L'essentiel de l'humanité mange par terre, donc on lui donne les branches de feuillage par terre. On le fait aussi parce qu'on veut voir comme ça sa position particulière, puisque pour manger par terre, elle écarte les pattes de devant et puis elle baisse la tête, elle a une position tout à fait particulière. Et les hommes de l'époque croient que c'est une position commune, alors qu'en fait, c'est une position très stressante pour les girafes, on le sait maintenant, puisque c'est une position dangereuse où elles peuvent se faire attaquer en nature. Ce qui fait que dans la nature, les femelles, par exemple, se baissent peu pour manger de l'herbe ou se baissent très peu pour boire. Et lorsqu'elles boivent, elles avalent plusieurs dizaines de litres en quelques secondes ou quelques minutes pour pouvoir se préserver du danger. Et là, au contraire, on fait répéter la scène sans arrêt. Alors, elle s'y habitue, mais en même temps, elle vit un stress extrêmement important. Et puis, elle part. Et voilà donc le seul document que l'on ait de son voyage entre Marseille et Paris. Là, on est au nord de Beaune. Elle commence à attaquer les pentes du Morvan. Et vous voyez donc, c'est un équipage tout à fait particulier. Vous avez les gendarmes devant. Alors, le tableau n'est pas tout à fait fiable, mais vous avez quand même les gendarmes devant, les gendarmes derrière, vous voyez à gauche du tableau. Les cornacs qu'on représente noirs, mais en fait qui sont égyptiens, mais pour les gens de l'époque, n'importe quel Africain est noir. Et puis, vous avez cette girafe, donc. Et vous voyez qu'elle, on la représente même sans sa longe ou à peine attachée. Elle doit avoir une longe seulement. Et parce qu'effectivement, elle s'habitue petit à petit à ce voyage. Alors là aussi, ce voyage est en dents de scie. Les premiers jours sont extrêmement stressants pour elle, à Aix, je vous l'ai dit, lorsqu'elle arrive, tout le long en fait de la vallée du Rhône, parce qu'elle rencontre énormément de populations et des gens qui crient, qui s'agitent. Et le meilleur exemple, c'est Lyon, puisqu'à Lyon, on la promène, on l'installe place Bellecour, dans un hôtel de la place Bellecour, et puis on la sort régulièrement. Il faut la sortir aux populations pour éviter que lorsqu'on va partir de Lyon, qu'il y ait de tels mouvements de foule, qu'il y ait un accident et que cette girafe en meure, par exemple. Hein, puisque c'est un cadeau royal, c'est un cadeau du pacha au roi, il faut absolument préserver ce cadeau. D'ailleurs, celui qui est à la tête du convoi, c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, c'est un des grands savants de l'époque, et ce pauvre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire sue sang et eau tout le long du voyage, à tel point que lorsqu'il arrive à Paris, il reste alité 8 jours, hein, parce qu'il a... Et vraiment, pour lui, c'était sa carrière qui était en jeu s'il ne ramenait pas vivante cette girafe. Et à Lyon, ça se passe relativement bien, sauf le dernier jour où il y a tellement de monde place Bellecour qu'on décide de la sortir sans ses vaches. Et on met devant elle une lignée de cavaliers à cheval, de gendarmes à cheval, et ça se passe mal parce que les chevaux ont peur des girafes. Tout le long du voyage, c'est le cas. Sans doute parce que les girafes ont une odeur assez forte que les chevaux ont du mal, on le sait maintenant, ont du mal à supporter. Et ces chevaux, manifestement, se sont emballés. La girafe a suivi derrière et la population lyonnaise a suivi derrière. Résultat, tout le monde s'est mis à tourner 10 fois autour de la place de la statue de Louis XIV, place Bellecour, jusqu'à ce que, petit à petit, tout le monde se fatigue. Et j'en arrive au point très important et qui est l'une des explications de la survie de cette girafe, c'est la présence des autres animaux. Elle loge à Marseille et puis elle va loger tout le long du voyage avec des vaches. Ces vaches sont là pour lui donner du lait parce que depuis sa capture, elle ne boit que du lait ou elle boit essentiellement du lait qu'elle boit chaud ou du moins tiède, c'est-à-dire comme si elle sortait à peine des mamelles de sa mère. Et on voit bien qu'elle est restée bloquée au stade où elle a été capturée. Elle n'est pas passée plus loin et ça montre aussi le stress. On sait maintenant que les girafons de zoo, les girafons très stressés, ont beaucoup de mal à passer de l'alimentation de la mère à l'alimentation naturelle. Et il faut souvent les garder plusieurs mois avec des biberons. C'est exactement ce qui va se passer avec elle jusqu'à sa mort en 1845. Donc on a besoin de ces vaches. Mais en fait, ces vaches ne sont pas là simplement pour la nourrir. On voit très bien dans les documents, les hommes s'en rendent compte plus ou moins bien qu'elle est là aussi pour la stabiliser. Et on va très vite prendre l'habitude de la faire marcher derrière les vaches. Et les vaches sont là un peu comme un espèce de repère. Et pendant le voyage, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire le dit très bien, au bout de 2-3 jours, dès que les vaches se mettent en route, eh bien, il n'y a pas besoin de donner des ordres à la girafe, elle part d'elle-même et elle les suit tranquillement. Et ce n'est pas un hasard si à Lyon, le jour où on décide de ne pas mettre les vaches, justement, ça se passe mal. Alors ça se passe bien avec les vaches parce que les vaches sont de la même famille que les girafes, c'est la famille des bovidés. Et il y a aussi dans cet attelage des antilopes qui sont aussi de la famille des bovidés. Donc cette girafe finalement se retrouve avec des animaux qui vont lui servir de compagnons et qui vont lui servir aussi pour les vaches, c'est absolument manifeste, de substitut de mère. Alors elle arrive comme ça à Paris en juillet 1845, alors ce sont de véritables événements. Elle est présentée au roi à Saint-Cloud, puis ensuite elle vit au Jardin des Plantes. Et la mode va être en place en gros pendant 2-3 ans. Et puis elle disparaît à peu près, elle est toujours vivante, mais elle disparaît, on pourrait même dire elle disparaît de l'histoire, puisque les documents eux-mêmes se raréfient. L'un des rares documents que j'ai trouvé sur elle, c'est cette gravure, dans un ouvrage, un espèce de guide du Jardin des Plantes qui paraît vers 1840, où on la montre là, logeant à la rotonde. Hein, si vous connaissez le jardin zoologique de la ménagerie du Jardin des Plantes, eh bien, elle est à la rotonde, dans une des parties de la rotonde, avec donc des vaches. Alors, voyez, la gravure vous représente un peu des vaches africaines avec une bosse sur le dos. En fait, non, à l'époque, ce sont des vaches européennes, un de ces cornacs. Elle vit un peu à l'étroit, mais elle va vivre quand même jusqu'en 1845. Hein. Et elle meurt d'une phtisie tuberculeuse des poumons, c'est-à-dire qu'elle meurt manifestement d'une tuberculose transmise par le lait de ses vaches, puisqu'elle est restée fidèle au lait de ses vaches jusqu'à sa mort. Et c'est comme ça qu'elle contracte cette maladie et elle meurt assez rapidement. Elle meurt dans une véritable indifférence. Hein. Delacroix note dans son journal qu'elle est morte dans la totale indifférence alors qu'elle avait suscité un véritable engouement à son arrivée en 1827. Voilà, donc je pense que je suis dans les temps. Hein. L'intérêt de travailler sur ces individus, c'est justement de pouvoir essayer de voir ce qui se passe des deux côtés et de bien comprendre ce qui se passe aussi du côté des hommes pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète des interactions. Je vous remercie.
Merci beaucoup Éric Baratet pour ce petit voyage interspécifique. Enfin, on a vécu dans la tête et le corps d'une girafe pendant 20 minutes. Alors, je vous présente Dominique Guyot, qui est sociologue et historien des sciences, je le disais. Il est chercheur au CNRS, spécialiste des relations entre sciences sociales et sciences de la vie, hein, sur en particulier les grandes modélisations biologiques hein, qui travaillent les sciences humaines, hein, et notamment la sociologie depuis le 19e siècle. Par ailleurs, il s'intéresse particulièrement à la réception du darwinisme en France en particulier. Il y a consacré un ouvrage qui vient d'être traduit d'ailleurs aux États-Unis, mais aussi au Maroc, où il habite et où il fait du terrain, comme on dit, pour savoir comment le darwinisme s'implante ou non au Maroc. Et puis, alors, il était question de girafes jusqu'à présent. Il a consacré un ouvrage aux chiens. En 2009, aux éditions du Pommier, et donc il va nous entretenir du chien.
Merci beaucoup, merci à la bibliothèque de m'avoir invité à parler devant vous aujourd'hui. En fait, moi, la perspective que je vais prendre, ce n'est pas celle du juriste ou du philosophe qui s'interroge sur la manière dont il faut traiter les animaux, mais plutôt dans une perspective plus descriptive et positive, d'essayer de voir comment on peut rendre compte des interactions entre les humains et les animaux. Alors actuellement, je dis ça très rapidement pour vous expliquer quelle sera ma perspective et celle que j'essaie de mettre en œuvre dans mes recherches. Il y a une coupure non seulement entre nature et culture, mais il y a une coupure entre l'éthologie et les sciences humaines sur cette question. L'éthologie ignorant totalement les sciences humaines, et les sciences humaines, y compris les sciences humaines qui cherchent à réhabiliter une forme d'agentivité chez les animaux, en général, est très très critique à l'écart de l'éthologie académique, qu'elle considère comme étant marquée par le modèle de l'animal-machine. Donc il n'y a pas de collaboration et une méconnaissance souvent assez regrettable des disciplines respectives. Alors moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est, à travers l'exemple du chien, c'est comment l'éthologie, y compris la plus académique, nous permet de comprendre des choses sur cet animal et nous donne finalement un regard très désanthropocentré, ce qui est un peu le but de toutes les recherches sur les animaux. Enfin, le but, en tout cas, c'est un des effets. Et donc, la perspective, ça rejoint en particulier ce que les autres recherches que je fais sur le darwinisme, dont je vais parler, elle est extrêmement darwinienne en termes éthologiques. Voilà. Alors, je viens donc au chien, puisque c'est l'exemple dont je vais parler pour illustrer un petit peu la fécondité de cette perspective, tout en ajoutant qu'il est important qu'il y ait d'autres perspectives aussi et qu'on les juge par leurs résultats plutôt que par leurs principes. Donc, je vais juste essayer de vous expliquer en quoi, rapidement, le chien est un animal extrêmement particulier pour l'être humain. Ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, et pas seulement pour ses maîtres et ses maîtresses. Et vous montrer aussi en quoi l'intérêt porté à ces animaux-là, bah, finalement, nous les font voir peut-être autrement sur des sujets capitaux que sont qu'est la domestication, et aussi nous fait voir autrement l'être humain dans cette affaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et puis je vais vous expliquer à la fin, si j'ai le temps, que c'est un animal sauvage, en fait, le chien. Ce n'est pas un animal domestique. Enfin, que les animaux domestiques, ça n'existe pas, du point de vue de la biologie, de l'évolution. Voilà. Alors, les chiens. Pourquoi c'est un animal unique au monde ? Eh bien, en fait, enfin, pour l'homme en tout cas, je dis bien pour l'homme, on en trouve dans toutes les sociétés, ou presque, depuis l'origine de l'humanité. Et dans les sociétés les plus différentes, chez les Esquimaux ou au Sahara, vous trouvez des chiens depuis toujours. Et puis vous avez des chiens dans les endroits où la végétation est la plus luxuriante, des forêts tropicales et donc des déserts également. On les trouve aussi, et ça c'est un fait encore plus intéressant, dans les deux types de sociétés humaines les plus contrastées, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, ils sont utilisés pour la chasse en général, où ils entourent les villages, et également dans les sociétés de sédentaires, agriculteurs, à partir du néolithique. Donc on les trouve, alors que les autres animaux domestiques, on ne les trouve pas dans ces deux types de sociétés. Par exemple, les porcs, les chèvres, vous ne les trouvez pas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Voilà. Et on en trouve aussi Par exemple, dans les sociétés amérindiennes qui ont précédé l'arrivée des Européens. On voit souvent les Indiens sur des chevaux dans les films ou dans leurs pensées. En fait, il n'y avait pas de chevaux auparavant, avant que les Européens les introduisent dans ces régions. En revanche, ces sociétés avaient des chiens. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de discussions intéressantes, notamment en Nouvelle-France, ça a été montré par des historiens, entre les mérites comparés. Enfin, les jésuites discutent, par exemple, avec les Indiens, des mérites comparés de leurs chiens, que les Indiens trouvaient les chiens européens plus intelligents que les leurs. Enfin, bon, je renvoie aux travaux des historiens. Denis Delage, d'ailleurs, qui a travaillé sur cette question. C'est très intéressant. Alors, autre fait qui marque la singularité du chien dans le monde vivant, dans le monde des animaux domestiques, c'est qu'il est apparu il y a environ au moins 30 000 ans, peut-être beaucoup plus que ça. Et il s'est diffusé extrêmement rapidement dans tout le monde, parallèlement à la diffusion des hominidés les plus proches de nous. Pour donner un ordre d'idée, les céréales, c'est 9 000 ans et seulement au Proche-Orient et en Asie. Les chèvres et les moutons et les porcs, c'est en gros 8 000 ans. Donc c'est bien, bien plus ancien que les autres animaux. Surtout, une autre différence qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il a servi, à la différence donc, des autres animaux domestiques, à presque tout. Il peut servir à la chasse, il a pu servir aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui chassent, les chiens chassent avec eux aussi également, bien sûr. D'ailleurs, il est intéressant aussi parce que c'est quand même un animal qui est apprécié autant, enfin moi je m'en suis rendu compte en étudiant, par les chasseurs que par les écologistes et les défenseurs des animaux. Donc il fait l'unanimité chez des gens qui ne s'entendent pas très bien en général. Donc il a servi à la chasse, il sert à la garde aussi, il a servi à travers sa force de travail, les traîneaux, il a servi de taxi aussi à Paris au XIXe siècle. Il a servi dans les guerres humaines, évidemment, comme une arme directe, quelquefois pour aller poser des bombes sous les chars soviétiques, par exemple, ou nazis plutôt, allemands, pour fournir des peaux, pour fournir de la nourriture, des protéines, il est encore mangé dans certaines régions du monde, pour des jeux de course, des jeux de combat, pour faire des expérimentations et aujourd'hui bon, pour faire du sport, pour trouver des explosifs, aider des non-voyants, etc. Donc, en fait, et puis, il y a une autre utilité qu'il a aujourd'hui, c'est la compagnie. Et j'ajouterais même qu'il y a une autre fonction, enfin, il a un autre statut qui est assez étonnant pour un animal domestique, c'est que la plupart des chiens au monde ne servent à rien du tout. Ça, c'est un fait qui mérite d'être noté. Je pense que 95% des chiens ne servent à rien et sont plutôt mal vus. Pour l'animal domestique, c'est, je ne sais pas s'il faut appeler ça une réussite ou un échec, mais c'est en tout cas un fait qui mérite d'être souligné. Alors, quand on y songe, en fait, il y a très peu d'activités humaines où les chiens n'ont pas trouvé une place dans lesquelles ils ont secondé ou accompagné ou suivi les humains. Prenez n'importe quel autre animal, le chat, la chèvre, vous ne trouverez jamais un chat d'aveugle ou une chèvre d'aveugle, ça ne marcherait pas très bien, je pense. Et oui, le chat, c'est 7000 ans, il a été domestiqué il y a 7000 ans, il est apparu dans l'est de la Méditerranée, il s'est diffusé. Bon, voilà. Ce n'est pas pour prendre parti entre les amateurs de chiens et de chats, mais du point de vue évolutif, le chien a une ancienneté et une expansion qui est sans commune mesure avec celle du chat. Donc le chien, c'est une sorte de couteau suisse, en fait, mais aussi un couteau suisse qui peut ne servir à rien du tout, hein, comme je viens de le dire. Et ils sont à peu près 400 millions dans le monde actuel. C'est en fait un succès d'un point de vue évolutif. Je vais y revenir. Ça pose la question, tous ces traits très particuliers, de leur origine. Je pourrais égrener quelques idées reçues à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de livres faits par des vétérinaires, notamment des éducateurs canins, dans lesquels il y a des pratiques très intéressantes, mais sur le plan évolutif, qui ont quelques lacunes. Par exemple, il y a des idées fausses. Le chien ne descend pas du loup, pas plus que l'homme ne descend du singe, d'ailleurs. Je vous répète, je vous rassure, je suis très darwinien, mais l'homme descend du singe, ça n'est pas une phrase qui est darwinienne. Le chien est un loup civilisé, on voit ça aussi. Ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la biologie de l'évolution actuelle. Je vais vous expliquer pourquoi après. Les huskies, vous connaissez les huskies, sont plus proches des loups que des autres chiens. C'est totalement faux aussi. Et puis, il existe des races qui remontent au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Tout ça est faux. Tout ça apparaît au XIXe siècle. Alors, j'en parlerai pas des races, mais bon, c'est une question aussi qui est intéressante, sur laquelle la biologie a beaucoup à nous dire. Alors, pour éclairer un peu la question que je vais traiter plus spécifiquement, celle de la domestication, voilà ce qu'on peut dire pour les chiens. Pourquoi ils sont très intéressants sur cette question ? Et pourquoi ils en disent long sur les humains ? Et aussi sur l'anthropologie, d'ailleurs, entre parenthèses. Distinguons d'abord, pour commencer, domestication et apprivoisement. L'apprivoisement, c'est la modification du comportement d'un individu, quelle qu'en soit l'espèce, de manière à ce qu'il y ait ou qui a pour effet d'être ajusté avec ce qu'en fait un être humain. Donc on peut apprivoiser des pitons, on peut apprivoiser presque beaucoup d'animaux, il y en a qu'on a beaucoup de mal à apprivoiser, mais on peut apprivoiser tous les individus. C'est-à-dire c'est un ajustement dans le développement individuel d'un animal avec un être humain dans les comportements. Ils trouvent l'un et l'autre leur compte. Et ça donne un certain profil psychologique à l'individu animal, mais aussi à l'humain d'ailleurs. La domestication, c'est différent. La domestication, c'est un processus dans lequel l'interaction entre l'animal, l'espèce animale en question et les humains a des effets en termes de phylogénèse, c'est-à-dire sur le long terme, au fil des générations, génétiques sur l'animal, de telle sorte qu'il a des traits qui se sont modifiés sous l'effet des interactions avec les humains. Et ces traits sont héritables. Ça peut être très variable, ça peut être réduit à quelques petites choses, donc il y a quand même une différence de degré entre apprivoisement et domestication, mais cette distinction est très importante pour comprendre le processus de domestication. La domestication, quelle idée, est extrêmement répandue encore aujourd'hui. J'ai pas entendu beaucoup d'anthropologues donner une autre explication, alors qu'elles existent. Enfin, il y a des explications que certains anthropologues américains darwiniens ont données depuis les années 80, et qui est extrêmement robuste et satisfaisante parce qu'elle permet d'évacuer des hypothèses qui sont toujours difficiles à accepter en anthropologie. L'explication qu'on a en général dans les débats sur l'intervention de l'homme sur la nature, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu des sociétés, alors on ne sait pas trop pourquoi, bon, de là des pages et des pages écrites par les anthropologues pour répondre à cette question, mais qu'on peut peut-être ne pas poser, mais je vous expliquerai pourquoi après. Il y a des sociétés qui auraient décidé, tout d'un coup, de domestiquer les animaux, et donc de les faire se reproduire, les mettre dans des enclos, et puis garder les plus robustes, ceux qui ont plus de chair, et puis ensuite de les faire se reproduire, ceux qui sont les plus robustes, et puis de rationaliser tout ça. Et puis il y a des sociétés, comme dit l'anthropologue Marshall Salins, qui auraient refusé ça. D'où tous les débats entre les gens qui pensent que, je simplifie beaucoup, mais l'industrie, le capitalisme et l'exploitation de la nature seraient nés de cette idée qui aurait germé, on ne sait pas pourquoi, à cet endroit et pas à d'autres, et des sociétés qui auraient refusé ça, et seraient restées dans un rapport moins exploitant avec la nature. Alors, cette hypothèse, pourquoi pas, on l'a tous un peu en tête, sauf qu'avec les chiens, elle ne tient pas. Pourquoi ? Elle ne tient pas pour deux raisons. C'est-à-dire que d'abord, comme je l'ai dit, la plupart des chiens qui existent et qui ont existé ne servent à rien dans les sociétés. Ils sont même très mal vus. C'est vraiment un phénomène récent qui vient avec la modernité de traiter le chien comme quasiment une personne. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, là, je décris juste un fait historique. Mais le chien a plutôt mauvaise réputation dans la plupart des sociétés, pas forcément pour des mauvaises raisons, parce qu'il est vecteur de quand même beaucoup de maladies, à commencer par la rage, qui sont, d'un point de vue, du point de vue de l'utilité des sociétés humaines, évidemment préjudiciables. Le deuxième phénomène, c'est l'ancienneté de la domestication. C'est plus de 30 000 ans, sans doute 50 ou 70 000 ans. Alors, il faut savoir ce que c'est les êtres humains à cette époque-là. Ce n'est même pas encore Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous. Ils n'ont pas vraiment de langage, quelques bâtons, le feu et quelques campements. Donc, il faut imaginer comment ça aurait pu germer un projet aussi compliqué du point de vue de la planification de l'activité humaine dans le futur, des connaissances agronomiques comme la domestication. C'est complètement impossible. Mais alors, comment ça s'est passé ? Grave question. Comment y répondre ? Eh bien, en fait, c'est là que le darwinisme nous est très utile, parce qu'il va nous donner une explication de la domestication dans laquelle on peut se passer de l'intention humaine, ce qui est extrêmement économique d'un point de vue scientifique. Comment ça s'est très probablement passé pour les chiens ? Eh bien, de la façon suivante, vous avez, il y a moins 100 000 ans, des canidés qui sont semblables, qui sont à mi-chemin, si vous voulez, entre les loups actuels et les chiens actuels. Et puis, dans cette population qui est assez importante, vous avez de la variation. Et qu'est-ce qui commence à fleurir à cette époque-là ? C'est des campements humains, avec les déchets que jettent les humains autour de leur campement. Parmi ces canidés ancêtres communs aux chiens et aux loups, vous en avez certains qui sont un peu moins effrayés par les humains, qui attirent peut-être un peu plus leur pitié, peut-être parce qu'ils ont les yeux plus ronds, qu'ils font des petits cris, qu'ils se laissent plus facilement apprivoiser. Ils ont un peu moins peur, ils sont aussi un peu moins agressifs que les autres. C'est la variété qui existe dans cette population de canidés semblables aux loups. Ceux-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont avoir accès à une corne d'abondance qui sont les déchets laissés par les humains autour de leur camp. Du coup, avantage sélectif, ils vont avoir plus de descendants que ceux qui sont un peu plus loin dans la forêt, par exemple. leurs descendants vont hériter ces traits, et parmi ces descendants-là, ceux qui, à leur tour, parce qu'il y aura de la variation, auront les yeux un peu plus ronds, seront un peu moins agressifs, se laisseront plus facilement apprivoiser, vont avoir plus de descendants parce qu'ils auront plus à manger, les humains leur donneront plus, parce qu'ils leur feront pitié, je ne sais pas, peu importe la raison. Et au bout de milliers de générations, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un animal, progressivement, dont la morphologie, la physiologie et le comportement se sont modifiés conformément à certaines adaptations à l'humain, sans qu'il n'y ait aucune intention humaine qui soit intervenue dans ce processus. Donc vous avez une explication de la domestication qui ne fait intervenir aucune intention humaine. Et là, je renvoie à des travaux anthropologiques qui datent des années 80, mais qui ont toujours du mal à percer en France. On s'est rendu compte qu'en fait, la domestication a été un échec la plupart du temps. C'est-à-dire que toutes les espèces qui pouvaient être domestiquées l'ont été. Et pourquoi la domestication est apparue dans certaines régions et pas dans d'autres ? Pas parce que certaines sociétés auraient eu l'idée capitaliste qui aurait germé comme ça ou industrielle dans leur esprit. C'est parce que les espèces auprès desquelles elles vivaient étaient domestiquables. Vous pouvez essayer de domestiquer un zèbre, vous n'y arriverez jamais. Alors que le cheval, c'est un animal, c'est le hasard ça, mais ça colle avec l'être humain. C'est le hasard. Alors nous, on voit que quand ça a réussi, mais ce qu'il faut voir, c'est tous les échecs de la domestication. Domestication qui, en plus, est involontaire. Donc voilà ce vers quoi le chien peut attirer notre attention. Je finis par trois petits points. Première chose, donc, le chien nous montre encore plus que les autres espèces que la domestication n'a sans doute pas été intentionnelle. L'intention a pu ensuite venir se greffer sur ces animaux qui étaient disponibles, bien entendu. Ça a été le cas pour les races. Mais à l'origine, ça n'est pas le cas. Il y a des explications très intéressantes des prunes et des vergers, des céréales aussi, de ce point de vue-là. Deuxièmement, si on comprend bien l'explication que donne l'éthologie ici, le chien est un animal sauvage. Qu'est-ce que c'est un animal sauvage ? C'est un animal qui vit dans son environnement naturel. L'environnement naturel du chien, c'est la niche, sans jeu de mots, anthropogénique. C'est-à-dire cette espèce d'habitat, système écologique dans lequel il y a des humains qui ont des poubelles, etc. Donc ça, c'est dire que le chien, c'est un animal qui n'est pas sauvage, c'est comme dire qu'un poisson, et en fait, sa nature, c'est d'être sur Terre, parce que voilà, le chien, il est auprès de l'homme comme un poisson dans l'eau, mais en un sens littéral. C'est pour cette raison que le chien n'est pas un loup humanisé ou civilisé. Il y a des différences. Il y a des proximités avec le loup, mais il y a des différences aussi qui tiennent à une adaptation à des conditions écologiques particulières. Le mâle s'en va avant la naissance, par exemple, chez les chiens. Chez la chienne, il y a un cycle ovarien qui est très différent. La vie sociale des loups est extrêmement structurée et codifiée. Les chiens, c'est plus des pères ubu de ce point de vue-là. Mais c'est leur nature. Il n'y a pas à dire qu'ils ont été modifiés ou transformés. C'est leur nature. Ils ont évolué au contact d'une autre niche écologique. Ce n'est pas une couche de peinture superficielle qui a été rajoutée sur un loup. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans un cirque, vous n'avez jamais vu de loup. Et il y a une raison très précise à ça. On a essayé de dresser des loups comme des chiens, c'est impossible. Impossible. C'est beaucoup moins dangereux de faire des numéros avec des tigres ou avec des lions. Parce que les loups ont une vie sociale extrêmement compliquée. Vous pouvez le faire avec des chiens, mais avec des loups, ce n'est pas possible. Il y a un chercheur qui a essayé aussi de dresser des loups à faire des chiens de traîneau. Grosse différence avec le husky, c'est totalement impossible. Les loups ne supportent pas la proximité d'un autre loup comme ça. Donc il y a des choses qui viennent de l'animal lui-même et qui sont des différences éthologiques qui expliquent que l'être humain ne peut pas faire ce qu'il veut avec eux. Dernière chose, formule peut-être un peu provocatrice, mais qui nous renvoie à un a priori qu'il y a aussi en sciences humaines quelquefois, et aussi dans la représentation ordinaire de l'animal. On pense souvent qu'il y a plus de raisons, plus de chances qu'on s'entende mieux avec des singes qu'avec des individus qui seraient plus loin. C'est-à-dire qu'on pense que les singes sont les plus proches de nous. En fait, les singes sont les plus proches de nous phylogénétiquement, c'est-à-dire dans l'arbre généalogique du vivant, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient plus proches que nous comportementalement, qu'on se comprenne mieux avec les singes. Moi, j'étudie un peu les singes au Maroc, je peux vous dire que c'est des animaux que j'apprécie pas beaucoup, d'ailleurs. Bon, je suis désolé de le dire. C'est très compliqué d'interagir avec les singes et c'est très dangereux, d'ailleurs, en général. Les chiens, en revanche, ils sont plus proches de l'être humain, ils sont plus éloignés généalogiquement, mais ils sont plus proches écologiquement, parce qu'ils ont évolué au contact des humains. D'où certaines interactions qui sont possibles, alors qu'ils sont beaucoup plus différents de nous, enfin, que les singes de nous. Je finis là-dessus. Il y a un trait communicationnel extrêmement intéressant. Quand vous pointez du doigt, comme l'imbécile de Confucius, un animal, quelque chose, toutes ces espèces regardent le doigt. Il n'y a que le chien qui regarde dans la direction du doigt. Et ça, ça n'a rien de mystérieux. Qu'un singe ne sache pas le faire, même s'il a un cerveau plus gros que le sien, ça ne vient pas de là. Simplement, il a évolué dans un environnement écologique différent. Voilà, je termine là-dessus.
Merci beaucoup, Dominique Guyot. Je posais 2-3 questions à nos conférenciers pour essayer de les faire débattre entre eux. C'est un peu le jeu de la table ronde. Je ne sais pas si je vais réussir, mais j'ai juste une petite question. En t'écoutant parler de cette étonnante communauté entre l'homme et le chien et ce que tu appelles dans ton livre la société anthropocanine, dans laquelle un homme peut être plus proche d'un chien parfois que d'un autre homme, je pensais à ce texte. Alors, tu le cites dans la conclusion de ton livre, ce très beau texte de Lévinas, qui est un texte très connu, où Lévinas raconte sa captivité dans les camps allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il dit dans ce texte, nous partions au travail le matin et un chien s'agitait et aboyait pour nous saluer en sautant sur place. Et il nous saluait le matin quand on partait au travail, et il nous saluait le soir quand avec une joie non retenue, enfin vraiment une joie très assez bouleversante pour ces travailleurs. Et on l'appelait Bobby, ce petit chien, et Bobby, c'était, dit Lévinas, Bobby qui nous reconnaissait la qualité d'homme, lui, la différence, il ne le dit pas, mais la différence des gardiens allemands, eh bien ce petit Bobby était le dernier kantien de l'Allemagne nazie, c'est l'expression fameuse de Lévinas, celui qui reconnaît la qualité d'homme. Donc voilà, et je pensais à ce texte en t'écoutant, et je voulais savoir comment tu réagissais à ce texte.
En fait, je trouvais ce texte intéressant parce que, bon, il est assez poignant d'abord, il est assez beau, et parce qu'il pointe sur quelque chose de très important et qui, à mon avis, n'est pas assez exploré par les sciences humaines sur cette question. C'est-à-dire que le lien social et l'apprentissage de comportements nouveaux, d'ailleurs, ce qu'on appelle culture en anthropologie, c'est-à-dire des comportements, des conduites acquises à travers les interactions sociales qui ne sont pas innées, ils peuvent non pas naître de l'identité, mais précisément des différences. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'en sociologie, en anthropologie, notamment actuellement, il y a beaucoup de débats là-dessus, qui débordent en philosophie et en droit, d'ailleurs. Et ceux qui défendent l'idée que les animaux, ce n'est pas des machines, ils ont une agentivité, qu'est-ce qu'ils cherchent toujours à faire ? À prouver qu'ils ont des dispositions qu'on retrouve aussi chez les humains. C'est très étonnant quand on regarde de près, c'est la théorie de l'esprit, pour certains qui sont en éthologie, c'est la capacité symbolique, c'est la conscience de soi, etc. D'un point de vue sociologique, il est peut-être, et peut-être aussi pour reconnaître le propre de l'animal et de l'homme, il y a quelque chose qui est très négligé, c'est toute la richesse de la vie qui naît non pas de la rencontre des identités, mais de la coordination ou de l'ajustement des différences. Et ça, mine de rien, ça fait une grosse rupture en anthropologie, parce que souvent, vous prenez les auteurs que, par exemple, Frédéric a cités, Comte, il nous parle « pour qu'il y ait de la société, il faut qu'il y ait du consensus ». Durkheim nous dit « pour qu'il y ait de la société, il faut qu'il y ait de la solidarité mécanique ». Il faut de l'identité, nous dit l'anthropologie aujourd'hui. Alors qu'il y a toute une vie riche qui naît du fait que, par exemple, un chien et un humain, c'est très différent. Un chien n'a pas de main, on ne peut pas serrer la main, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire aux chiens sans savoir le faire, par exemple. Les chasseurs font faire des choses aux chiens, suivre un animal blessé qu'ils ne sont incapables de faire eux-mêmes. Donc le chien ne l'apprendrait pas non plus sans le chasseur. Donc il y a toute une vie sociale extrêmement riche qui ne se passe peut-être pas sur la strate très humaine de la conscience de soi, etc., mais qui gagnerait à être observée parce que l'essentiel de la vie interactionnelle avec les animaux, et je ne la rabaisse pas en disant ça, se situe peut-être sur ce plan intermédiaire entre des facultés proprement humaines, conscience de soi, etc., et puis le stade de machine.
Alors c'est génial, mais Frédéric Kick veut rebondir. Une table ronde.
Oui, mais je partage tout à fait le point de vue de Dominique Guyot. D'abord sur le fait que les sciences sociales doivent être une exaltation des différences et pas une recherche des identités. Ça c'est Lévi-Strauss, mais peut-être déjà Kant, en fait. Le transcendantal, c'est peut-être ça, déjà. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point de ta démonstration, qui est que le chien est un animal sauvage apprivoisé et pas un animal domestiqué. De ce point de vue, je crois qu'un des fils conducteurs de nos trois interventions, c'est que la vraie coupure n'est pas entre l'animal sujet de droit et l'animal marchandise, ou dans l'animal sujet de droit, entre l'animal sujet sensible et l'animal avec des compétences performances intellectuelles. La vraie coupure du point de vue des sciences sociales, c'est entre des sociétés de chasseurs, qu'on dit sauvages, et des sociétés domestiquées, de domestication, ou, qu'on dit aussi pastorales. Et donc les coupures entre sujet et marchandise, ça apparaît avec la modernité, le capitalisme. Mais la vraie coupure, c'est ce qu'on appelle... Alors, la révolution néolithique, on n'utilise plus tellement ces termes-là, mais c'est cette coupure sauvage-domestique. Et l'intérêt des travaux comme ceux de Dominique Guillot ou par exemple de Jean-Pierre Digard, c'est de montrer que ce seuil de la domestication, il est réversible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des espèces qui passent de la domestication au sauvage. Alors, le chien est un cas un peu particulier, mais dans le cas des vaches folles et des poulets, c'est tout à fait frappant. Et je voulais juste faire une dernière remarque, alors peut-être en guise de provocation, mais aussi d'hommage. J'admire beaucoup le travail d'Éric Baratet, qui vraiment, dans la communauté des historiens, pousse une perspective qui est très radicale et qui est poursuivie par d'autres en anthropologie, en philosophie. Mais je crois que quand vous faites comme ça le suivi de la biographie de cette girafe et que vous cherchez à prendre son point de vue, alors que les historiens tendraient habituellement à transcrire le point de vue des humains qui en parlent, en fait, je crois que vous faites quelque chose d'assez semblable, et c'est un hommage à ce qu'a fait Michelet. On parlait de Michelet, le constitutionnaliste, tout à l'heure, mais je parle de Michelet, l'historien, puisque Michelet, Jules Michelet, se présentait en quelque sorte comme un sorcier qui devait faire la résurrection des morts à travers son espèce de transe qu'il écrivait via aussi sa communauté mystique avec une femme. Enfin bon, tout ça est assez connu. Mais je crois que ce que vous faites, c'est assez proche de ce que des anthropologues comme Viveros et Castro décrivent sur les pratiques chamaniques. C'est-à-dire que vous essayez de reconstituer des traces, parce que les archives sont quand même assez lacunaires. Là, vous avez retrouvé un document assez tardif. La plus grosse partie des documents viennent de l'arrivée de cette girafe. Donc, vous êtes vous-même, en quelque sorte, chasseur de traces pour suivre cette girafe. Et donc, c'est ce qui vous permet de prendre le point de vue de cette girafe. Mais la question que je vous poserai à ce moment-là, c'est... votre girafe, vous montrez qu'elle est domestiquée, qu'elle résiste un peu à la domestication, mais que finalement, on lui donne du lait comme une vache, et c'est d'ailleurs ça qui va la faire mourir. Mais finalement, Geoffroy Saint-Hilaire, quand il va chercher cette vache...
Cette girafe.
Quand il va chercher cette girafe, peut-être est-il fatigué aussi d'être allé la chasser. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au point où on a capturé cette girafe? Est-ce que ça a fait à cette girafe d'être capturée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller au-delà du seuil où la girafe est domestiquée pour aller jusqu'au point où elle est encore sauvage?
Oui. Je pense que les remarques que vous faites viennent peut-être d'une grosse différence qu'il y a entre les sciences humaines du présent, l'ethnologie, la sociologie, etc., et puis l'histoire. Dans le sens où, effectivement, on travaille sur des indices. Par exemple, pour cette girafe, on a quelques indices. On a en gros... en tout et pour tout, on a un rapport d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire au muséum, qui doit faire une dizaine de pages. On a des lettres du même Étienne au préfet de Marseille, parce que le préfet de Marseille était chargé de suivre le voyage. On a un rapport d'un naturaliste marseillais assez important, qui fait une vingtaine de pages, mais qui est remarquable parce que ces gens-là n'avaient jamais vu de girafe et donc ils n'ont pas de référence. Et il regarde relativement d'une manière libre cet animal. Et puis on a quelques articles d'un professeur à l'école vétérinaire de Lyon qui s'appelait Grenier, qui a fait un peu des articles tout le long du voyage. On ne sait pas trop comment il était informé, mais il est relativement bien informé. Alors c'est vrai que c'est peu. C'est vrai aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, sans doute... les hommes de l'époque n'ont vu que 20% de ce qu'a fait cette girafe. Et ils n'en ont peut-être raconté que la moitié de ce qu'ils ont vu, hein, bien sûr. Et que nous avons le même filtre qui passe devant. Mais cela, on le fait tout le temps en histoire. C'est ce que Ginsburg appelle les indices. Carlo Ginsburg parle d'indices. L'histoire se fait avec des indices. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire ce que vous faites et vous avez beaucoup de chance, hein, ce que vous faites en sociologie ou en ethnologie, on ne peut pas faire recommencer les scènes, on ne peut pas choisir ses lieux d'expérience, etc., etc. Donc on est obligatoirement là-dedans. Alors évidemment, c'est une renaissance, mais exactement de la même manière. Alors il y a une différence, je dirais, de difficulté, parce qu'il y a une barrière d'espèce, mais je dirais que nous, je ne vois pas la différence entre mon travail, par exemple, essayant de retracer le voyage de cette girafe, et les historiens des médiévaux essayant de parler des paysans du Moyen-Âge. Aucun paysan ne s'exprimait au Moyen-Âge. On est obligé de passer par des documents intermédiaires, par des notaires, par la comptabilité des seigneurs, etc., etc. Ça ne nous empêche pas de faire une histoire des paysans, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, ça, c'est évident. Comme là, ça vaut ce que ça vaut. Simplement, ça permet, je crois que l'intérêt de la démarche, c'est qu'elle permet de voir autrement, qu'elle permet de faire poser des questions et qu'elle permet donc de rebondir. C'est-à-dire que en se demandant qu'est-ce qui se passe du côté de la girafe, ben, on comprend des choses du côté humain que autrement on n'aurait pas compris. On serait passé, on aurait lu les documents sans bien comprendre, sans remarquer. Et là, on le remarque. Donc, on enrichit l'histoire. Alors, sur la fin de votre question, j'ai oublié, je ne sais plus ce que vous me demandiez.
Ce que je disais, c'est que quand vous prenez le point de vue de l'animal, ce qui semble impossible, en fait, puisque vous n'êtes pas un animal. Si. Enfin, vous n'êtes pas une girafe.
Je ne suis pas une girafe.
Vous n'êtes pas une girafe.
Vous n'êtes pas une femme.
C'est vrai. Et oui, vous n'êtes pas un paysan médiéval non plus.
Exactement. Et un ethnologue n'est pas un Amérindien.
Mais... D'accord. Non, c'est pour pousser la comparaison, mais ça, c'est Ginsburg qui dit, effectivement, l'historien est comme un chasseur qui trace les indices. Mais Viveiros de Castro va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de prendre des indices et de reconstituer des traces et des trajectoires. Il s'agit de se mettre dans la peau de la girafe, et ça, il n'y a que le chaman qui peut le faire. Ça, c'est ce que dit Viveiros pour les Amazoniens.
Oui et non. Oui, bien sûr. Y a le chaman dans le sens où il y a une espèce de, y a une volonté de se projeter, comme le font les chasseurs, comme le font les chamans, comme ont pu le faire des ethnologues. Les ethnologues essayent aussi de se projeter dans la peau des gens qu'ils étudient.
Peut-être ce qui veut dire aussi plus simplement, c'est peut-être un usage disons raisonné d'un certain anthropomorphisme. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites il y a des indices, il y a des traces. Par exemple, elle ne dort pas avec le cou sur les... L'éthologie commence par ce type d'investissement anthropomorphe, alors qu'il faut raisonner. Mais quand vous dites ensuite, on peut se dire qu'elle était stressée parce que, par exemple, elle fuit lorsqu'il y a trop de monde, etc. Elle recherche une mère ou des investissements un peu maternants, etc. Ça, c'est vraiment notre expérience humaine qui se projette de manière la plus raisonnée possible. Mais parce
non,
que,
non, non, non.
Bah oui, mais il faut avoir une mère pour savoir ce que c'est qu'un investissement maternant, vous voyez.
Oui, oui, bien sûr. Ah ben, évidemment.
Donc, ça procède d'une certaine manière de notre vie. Alors ensuite, il faut essayer de la projeter
pas,
le plus loin
possible. Ce n'est pas un anthropomorphisme, c'est une communauté, comme il a été dit pour les chiens et les hommes, c'est une communauté de vie qui fait qu'il y a des animaux, d'autres espèces qu'on comprend mieux. Et puis, surtout ce que j'ai dit dans l'interprétation de ce que a pu ressentir cette girafe, je m'appuie sur l'éthologie actuelle.
Oui, j'ai bien vu. C'est ce que j'appelle l'indice ou la trace objective. Oui.
Hein, le fait, par exemple, que le fait qu'il n'y ait pas de sommeil profond, c'est le stress, c'est le signe d'un stress. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les éthologues actuels qui, en étudiant les girafes en zoo et en les étudiant en liberté, ont montré que les zoos posent des problèmes, notamment pour cette question de stress. Moi, en tant qu'historien, j'essaie justement de ne pas tomber là-dedans dans l'interprétation qui tomberait vite dans l'anthropomorphisme.
C'est inévitable et que ce n'est pas un défaut. Mais c'est au-delà de ce que vous apprend l'éthologie de manière objective sur la manière dont dorment les girafes, etc. Il y a ce que vous pouvez, si vous voulez vivre ce qu'elle vit et adopter son point de vue, il y a un moment, il faut y aller charnellement, en quelque sorte. Essayer de voir ce qu'elle a. Qu'est-ce que c'est que du stress si tu ne vis pas le stress, tu vois?
À condition, on peut tenter de se projeter à condition d'avoir des indices, d'un côté des indices historiques et un savoir éthologique de l'autre côté.
Oui, pour contrôler la chose.
Je ne me lance pas dans cette projection sans munitions.
Juste un mot. Ce qui est important là, en tout cas, enfin moi je suis de l'avis d'Éric Baratet au sens où on peut utiliser l'éthologie et je pense qu'elle est mieux armée que le chaman pour se mettre à la place de l'animal personnellement. Parce que si on retombe sur le chaman, on retombe sur des catégories anthropologiques qui sont des catégories humaines. Donc il y a l'ontologie du chaman, il y a l'ontologie de l'éthologue, etc. Mais juste pour dire une chose, je pense que la prudence Ce qui est important, c'est après de savoir ce que l'éthologie, quand elle a étudié la girafe, et a entendu par amour maternel, etc. Parce qu'en général, ce n'est pas si anthropomorphique que ça. Donc là, ça permet d'établir la différence entre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience vécue par les humains, qui est particulier, et ce que dit l'éthologie. Donc c'est un entre-deux.
Un aller-retour, oui.
Voilà, un entre-deux qui est quand même assez solide objectivement, sans réduire l'humain à être exactement la même chose.
Absolument. Bon, on a beaucoup parlé, on est désolé, on va poser sans doute des questions à poser à nos trois conférenciers.
On va prendre 2-3 questions. Enfin, une déjà.
J'ai hâté la fin du débat pour vous écouter.
Merci de poser des questions courtes.
Il y a une dame là-bas, puis on va... Oui, d'accord.
Oui, bonjour, merci à tous. Ce n'est pas une question vraiment, mais dernièrement, j'ai lu un livre de Bernard Werber qui s'appelle, se titule aujourd'hui Les chats, cette fois c'est pour les chats. Et j'ai trouvé là des idées que c'est le chat qui parle. Alors, c'est comme si le chat, il raconte ce qu'il sent et tout ça. Alors, ça a beaucoup à voir avec tout ce que vous avez parlé en général. Voilà, je voulais dire ça. Merci.
Merci, madame. Oui, vas-y, je t'en prie.
Juste un petit mot sur le langage des animaux. En fait, ce serait très long à expliquer parce que le langage, c'est une chose particulière. Les animaux communiquent, les chiens notamment, mais ils n'ont pas quelque chose qui ressemble à notre langage. C'est-à-dire que si on voulait vraiment traduire les sons qu'ils font, les aboiements d'un chien, par exemple, ce ne sont pas des mots au sens où des briques sémantiques qui ont un sens, mais ça ressemble à nos interjections. C'est « eh, oh, ah, ouah, ou ». Ça produit des effets, si vous voulez. Parce qu'on voit souvent en dictionnaire chien-humain, chien-chat, etc. En fait, ça ressemble plus à ça. Il n'y a pas de choses qui correspondent à un mot. Alors, moi, je sais, quand je dis ça, tout de suite, les gens ils disent « ah ouais, non, mais on ne les comprend pas, c'est un langage qu'on ne comprend pas ». Mais pourquoi vouloir absolument que les animaux aient un langage? Ils ont des modes de communication extrêmement raffinés qui sont non-verbaux. Et en tout cas, s'ils avaient un langage, on le repérerait par sa structure. Comme on repérerait une planète par le télescope, même si on n'était pas capable d'y aller. Et donc, quand votre chat, il miaule, ben, c'est comme si un humain vous disait « Hey !» Ou je ne sais pas, ça dépend des rapports avec votre chat. Je sais pas.
Et lui, il est plutôt chien que chat, attention.
Ouais, ouais. J'ai eu des chats aussi. Comme mon chien n'aimait pas les chats, je me suis dit...
Allô ? Oui. En fait, j'ai deux questions, une pour M. Guillot et une pour M. Baratet. M. Guillot, vous avez parlé des chiens pour la plupart inutiles. Alors, j'aimerais que vous précisiez ce que vous entendez par utile ou inutile. Voilà. Et d'autre part, pour M. Baratet, j'ai été très passionnée par l'histoire de cette girafe que je connaissais déjà en partie, mais justement, je ne connais pas bien le début. Et je pense qu'il y a peut-être des documents venant du Pacha d'Égypte des personnes qui, dès le départ, ont emporté la girafe. Et bon, je serais très intéressée si vous pouviez dire quelques mots là-dessus. Et en particulier, je pense que vous avez évoqué qu'elle était déjà d'un tempérament particulier. Voilà. Bon, merci d'avance.
Ce sera rapide. En fait, utile, c'est pas au sens où ils sont inutiles pour la planète en général, c'est-à-dire qu'ils sont pas utilisés par les humains pour une fonction particulière. Je voulais juste dire ça. C'est-à-dire qu'ils vivent à côté des humains, ils sont plus ou moins bien traités, maltraités, alors qu'il y a d'autres chiens qui ont une utilité manifeste du point de vue des humains. Voilà. C'était juste descriptif, hein, pas du tout un jugement. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est en ce sens, je ne vais pas les dévaloriser, mais de fait, ils ne sont pas utilisés par les humains pour une fonction particulière. Voilà.
Alors, sur la girafe, on connaît à peu près son itinéraire. Hein. Elle a été capturée au Soudan, elle a été amenée à pied jusqu'au Nil et ensuite descendue le Nil sur une barge avec une consœur capturée en même temps qu'elle, celle qui a été offerte au roi d'Angleterre et qui est morte à Malte, je crois. Mais on a très peu de documents. Il n'y a pas de documents, par exemple, en Égypte, il n'y a pas de documents côté Pacha. il n'y a pas grand-chose non plus du côté du consul de France qui réceptionne la girafe. C'est lui qui reçoit la girafe au nom du roi et qui l'envoie sur un bateau. Quand on lit, par exemple, la correspondance de Drovetti, qui est le nom de ce consul, il n'y a quasiment rien. Ou alors, ce qu'il y a n'est pas très intéressant si on veut s'intéresser à ce qui se passe du côté de la girafe, parce qu'il y a aussi ce problème-là. On a beaucoup de documents historiques, mais beaucoup de documents historiques ne sont pas forcément intéressants pour le côté animal. Et donc, on peut en gros, son itinéraire, là, on peut le retracer en une page ou deux, quoi. On n'a pas grand-chose. Vraiment, les documents, c'est lorsqu'elle sort de Marseille, enfin de la quarantaine à Marseille, elle qu'elle rentre, parce que là, on a des naturalistes sur place, notamment Sals, et qui regardent relativement bien. Alors on a aussi, pour le tempérament, ce dit naturaliste marseillais a interrogé les conducteurs égyptiens, qui eux-mêmes avaient reçu des consignes de la part de tous ceux, parce qu'elle est passée de main en main, en fait. Hein. Il y a eu les capteurs, puis ensuite les marchands qui l'ont amenée sur le Nil, puis ceux qui l'ont descendue le long du Nil, puis ensuite les gens à qui le Pacha et Drovetti ont confié la girafe, puis l'équipage, puis enfin les gens, les Français à Marseille. Alors il y a eu quand même des échos, et ce naturaliste marseillais en parle assez bien. Notamment, il met beaucoup l'accent, et là ce sont les conducteurs qui lui l'ont dit, hein, il met beaucoup l'accent sur le caractère très particulier de ces girafes. Et c'est vrai que quand là aussi on revient sur l'éthologie actuelle, et notamment sur tous les travaux qui ont été faits sur les captures de girafes, les captures de girafes sont extrêmement dangereuses pour les girafes. La mortalité est très importante pour les girafons, pour les mères évidemment, puisqu'elles sont systématiquement abattues, mais pour les girafons aussi, parce qu'ils essayent de s'échapper, ils se font des luxations d'épaule, ils se cassent les jambes, etc. etc. Ou alors ils tombent dans un état de dépression extrêmement fort qui fait que bon, il n'en réchappe pas. Et là, pour qu'elle survive, c'est parce qu'on avait vraiment un tempérament particulier. Ça, maintenant, les éthologues le savent aussi dans les animaux qui arrivent à franchir certains aspects, c'est qu'ils ont un tempérament adapté. Et là, on le rencontre, hein, tout à fait. Mais on n'a pas énormément de renseignements, hein, avant Marseille. Non, je pense qu'elle a été choisie par hasard, mais c'est pas par hasard si elle survit. Hein? Voilà. Alors que les autres meurent rapidement.
Toute petite annonce de Frédéric Keck avant de terminer ce débat.
Oui, je voudrais faire une annonce publicitaire. Si vous vous intéressez à la façon dont les sciences sociales traitent les relations entre humains et animaux, j'anime un séminaire au laboratoire d'anthropologie sociale avec Carole Ferret, qui est spécialiste du cheval en Asie centrale. Le laboratoire d'anthropologie sociale étant en ce moment en travaux, le séminaire est déplacé au musée du Quai Branly et vous trouverez le programme à l'entrée.
Merci beaucoup Frédéric, merci à nos trois conférenciers, merci à vous pour votre attention.